Paul Sécure, épisode spécial, je suis compris le Régis. Comment vas-tu?
Bonjour Nicolas Loé. Oui, je vais très bien. Donc, c'est peut-être ton premier podcast 2024 qu'on enregistre ce matin?
On est pas mal dans les premiers 2024 qu'on enregistre, oui. On est pas mal rendu là. Aujourd'hui, on va aborder Zero Trust d'un point de vue conceptuel. On va aborder ça. Je l'ai déjà abordé sur le podcast de différentes façons. Toi, tu as un angle qui est très intéressant, qui justement qui n'a pas été abordé encore. Tu as de l'expérience réelle à partager et justement certains éléments très intéressants justement qui vont peut-être permettre de concentrer les énergies aux bonnes places. Fait que je vais te laisser amorcer avec ça, puis on va aller avec des questions comme d'habitude.
Ben, c'est bon. Fait que première question, c'est moi qui vais te la poser, Nicolas. Zero Trust... Toi, là, si je te disais dans un langage québécois, là, comment tu traduirais ça, le Zero Trust?
Très bonne question. Et là, c'est justement de le vulgariser. Sur la base, c'est ne pas, ce qu'on pourrait le traduire, c'est ne pas faire confiance à rien. Donc, dans un contexte, on est dans un environnement où tout est vérifié. Ce qui est à contrario à beaucoup de choses qu'on fait en TI en général, où on a tendance à faire confiance à tout par défaut et non à vérifier tout. Par défaut. C'est un changement de, peut-être de regard sur comment on aborde les technologies. Donc, d'aller dans une technologie d'un volet aussi qui est humain, parce qu'humain, on a tendance à faire confiance à nos semblables et de par défaut et non de leur faire, surtout au Québec, naturellement, là, si je me fie aux Français, sont un peu plus nerveux. Nous, on est beaucoup plus dans la confiance et l'ouverture, donc d'aller de basculer cette logique-là.
Ben oui, écoute, tu as tout à fait raison. Ne faire confiance à rien ou ne jamais faire confiance par défaut. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre de Zero Trust. Tu sais, moi, j'étais là à l'époque des dinosaures et des temps jurassiques là, en cybersécurité. J'ai vu les mainframes, j'ai vu des trucs qui sont arrivés. Je me souviens, dans les années 90, mes premiers mandats en cybersécurité, je pense en 96, 97, 98, j'avais un mandat avec la DGT ou la DGC. Je me souviens plus. DGT, c'était Télécom, puis DGC, je ne sais pas si c'était l'informatique là, au gouvernement du Québec. Là. Il avait acheté un premier coupe-feu là, que ça s'appelait une Shasta de Nortel. Okay? Écoute, c'était comme un mainframe, mais qui faisait de la sécurité. C'était toute une bébite, cette affaire-là. Écoute, c'était... Le concept Zero Trust, c'est sûr qu'il l'avait compris. Il l'avait compris parce que la boîte, là, il fallait tout que tu montes de A à Z pour que la réseautique, ça marche, le routage, ça marche. Puis après ça, les couches de sécurité, par défaut, là, tout était fermé. Il fallait que tu ouvres toutes les ports, les sessions, les transactions, tout. Tu sais, mettons ICMP, là, ben, tu as plusieurs types de ICMP. Il fallait que tu dises, ah oui, celui-là, je vais le laisser passer, type 1, type 2, type 3, etc. Fait que, écoute, c'était ça prenait, mettons, juste pour ouvrir un port TCP 80 pour faire du web. Écoute, ça prenait une journée, là, OK, pour laisser un poste jaser avec un serveur. C'était... une boîte fermée. Tu n'as jamais entendu parler probablement des Shasta parce que j'ai entendu.
Oui, j'en ai entendu parler. Là, moi, personnellement, j'ai pas eu les configurer à faire ce travail-là, mais j'ai côtoyé des gens qui l'ont fait ou qui devaient le faire beaucoup. Et je les entendais rager parce qu'ils n'aimaient pas beaucoup ça, ce genre de choses-là. Ça exigeait beaucoup de travail, disons.
Ouais, exactement. C'était compliqué. T'sais, moi, je ne sais pas si c'est vrai, là, mais on m'avait dit que Nortel en avait vendu 3 dans le monde, OK? Puis que, dans le fond, la DGT en avait acheté un. Fait que, donc, c'était assez spécial, là. Mais bon, ça a pas fait long feu parce que c'était trop compliqué. Mais tu sais, eux autres, la philosophie, Zero Trust, parce que c'était des militaires un peu derrière ça, la Shasta, là, ce que je me souviens. Ben, il avait appliqué la règle de dire tout est fermé, tout est fermé, à rien, faut tout que tu montes de A à Z. Fait que Zero Trust, quand on regarde ça puis qu'on lit là-dessus, c'est un nouveau modèle d'architecture de sécurité. OK? Donc, c'est une sécurité où tu fais confiance à rien. Parce qu'aujourd'hui, le modèle dans lequel on vit, puis on s'en rend pas compte, c'est une sécurité implicite. Puis je vais te donner un exemple. Regarde, dans les entreprises, les gens qui sont en télétravail puis des fois qui vont aller au bureau, quand ils sont en télétravail, ils se connectent à distance. Puis là, il y a plein de logiciels, plein de systèmes. Ils vont restreindre quand même de façon assez pointue importante que les gens vont pouvoir utiliser à partir de leur poste. Mais tu prends le même poste, là, le lendemain, tu t'en vas au bureau de l'entreprise, tu branches ça sur le réseau, puis là, le réseau, il voit tout. Tu sais, l'ordinateur, il voit tout sur le réseau. Ça, c'est l'exemple de implicite. Donc, tu vois que c'est pas égal du tout, là. Donc, Zero Trust, c'est un modèle d'architecture de sécurité. C'est une stratégie de sécurité. C'est aussi un gros concept. Okay? Moi, ce qui me fait bien rire là, depuis un an, deux ans, c'est que là, j'ai vu apparaître au niveau marketing tous les manufacturiers de sécurité qui existent ou à peu près, là, puis nomme les 20 plus gros. Là, maintenant, ils te vendent une solution Zero Trust. OK? Mais c'est impossible de vendre une solution Zero Trust. Pourquoi? Ben, je viens de le dire, c'est un modèle d'architecture, c'est une stratégie, c'est un concept. Parce que, c'est comme si moi j'allais te voir, Nicolas, puis je te disais, hey, je vais te vendre une solution qui va PCI DSS ou ISO 27001. OK? Ça a comme aucun bon sens, là, ce que je te dis.
Ça se tient pas parce que c'est des processus, c'est des architectures, c'est des philosophies aussi jusqu'à un certain point, le Zero Trust, puis c'est des composants vont aider à atteindre. Mais ces composants-là existaient là avant que ça devienne la mode, comme on en parle maintenant. Donc, on était encore dans les mêmes... On change pas la technologie, on change la façon qu'on utilise la technologie essentiellement.
C'est un gros changement. Tu sais, au mieux, les manufacturiers, ils vont pouvoir te vendre un petit bout de fonctionnalité ou de que tu vas avoir besoin pour Zero Trust. Mais si tu en rencontres un qui dit... Moi, là, je trouve que tu vas déployer ma technologie. Ton organisation va être full Zero Trust, Zero Trust Enabled. Écoute, si ça t'arrive un jour, là, t'es mieux d'appeler un autre fournisseur. OK? Parce que ça n'arrivera pas. Fait que, tu sais, comme on le disait dans le principe Zero Trust, on va parler là, de tu disais tout à l'heure, on ne permet pas d'accéder on ne fait pas confiance à rien, là, tu sais. Fait que c'est quoi rien, dans le fond? C'est, tu sais, on a des gens, des utilisateurs qui veulent accéder à des données, hein? C'est ça le principe, là, qu'on vit en informatique, là. Fait que, là-dedans, eh ben, dans la combinaison, il faut avoir, on a un utilisateur, hein? Donc, l'utilisateur a un contexte. Après ça, l'utilisateur, généralement, il a besoin d'un dispositif parce qu'on n'a pas encore voyons la chip là, de Tesla qu'on va se mettre dans le cerveau. Là, okay? On a encore besoin d'un dispositif. Donc, le dispositif a également un contexte. Okay? Ensuite, il y a des notions de service. Donc, tu sais, il faut. Zero Trust veut s'assurer qu'il n'y a pas rien d'implicite que ces trucs-là aient en place avant d'accéder à une donnée, peu importe la donnée que ce serait. Puis Zero Trust aussi implique que. On devrait toujours évaluer avant toute connexion, hein, mais aussi un concept qu'on a moins vu en sécurité, durant toute ta connexion. Tu sais, aujourd'hui, tu te connectes sur une application, puis à un moment donné, tu ouvres la session, tu fermes la session, bingo, OK? Zero Trust introduit des affaires assez pétées puis avancées, c'est que pendant toute la durée de ta session, qui nous dit que ton contexte n'a pas changé, n'a pas évolué, etc., ou que au niveau des données, tu as besoin d'accéder à un set de données qui a un niveau de classification plus grand. À ce moment-là, fait que tu sais, ça va amener là ce que moi j'appelle le continuous authentication. OK, ça là, on le voit dans la documentation de NIST là pour Zero Trust, ça. Continuous authentication. Fait qu'imagine-toi dans ta journée là, je te demande à toutes les 5 minutes de réauthentifier, Nicolas, tu capoterais. OK, mais ça va amener
C'est important de ramener le concept parce que quand on parle d'authentification dans ce cas-ci, c'est pas authentification au sens où on le fait, on se branche avec notre utilisateur mot de passe le matin, mais c'est authentification, c'est de vérifier que la connexion, elle est toujours légitime d'opérer comme elle doit opérer. Là.
Exactement. Donc, tu sais, puis on va évaluer, dans le fond, le concept derrière Zero Trust, c'est d'évaluer la posture qui est la combinaison, dans le fond, de deux choses, l'individu et le dispositif, pas juste un ou juste l'autre. Aujourd'hui, on a tendance à dire, ben c'est le poste, c'est beau, il se connecte, après ça, c'est l'individu. Tu sais, c'est comme en parallèle. Zero Trust va amener comme une genre de combinaison. Ça va être le contexte puis la posture de cette combinaison-là ensemble. Tu sais, parce qu'il y a une grosse différence entre Tu sais, toi, tu es sur ton ordinateur, tu es branché sur un réseau, un fournisseur Internet au Canada. Moi, je peux être en Corée du Nord avec mon ordinateur. Pourtant, au niveau d'utilisateur, on peut nous avoir donné des permissions, par exemple, d'administrateur dans des systèmes. Tu comprends que moi, là, mon contexte, vu que je suis en Corée du Nord avec mon ordinateur, amène beaucoup de risques, tu sais, pour l'organisation avec laquelle je me connecte, que je veux accéder aux données. Tu sais. Donc c'est ça. Fait qu'écoute, aujourd'hui, tu sais, on voit beaucoup de contrôle informatique lors des accès à distance en télétravail parce que ça l'a, tu sais, on se dit, hey, t'es dans un milieu hostile, etc. Mais ce qui est un peu particulier, c'est quand l'ordinateur revient au bercail à la maison, là, on lui permet d'accéder à tout. OK? Donc, dans un mode zéro trust, ça voudrait dire que les ordinateurs qui se branchent sur le campus, on devrait appliquer exactement les mêmes règles, les mêmes sets que si tu te connectes à distance. T'sais? T'sais, donc, ça va amener beaucoup de changements, puis ça va amener beaucoup d'innovations aussi dans le continuous authentication, par exemple. Hey, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ça avec des mots de passe, du MFA. Fait que là, on va commencer à jaser, dire c'est la biométrie, mais c'est aussi du comportemental. T'sais? Fait que il y a de plus en plus de technologies là, qui arrivent, là, des nouvelles affaires. Ou est-ce que, par exemple, ils vont faire la signature kinétique de comment tu tapes les touches sur ton clavier et que tu manipules ta souris puis que tu travailles sur ton téléphone, OK? Puis, ils sont capables, écoute, en quelques secondes, ils vont faire ta signature. Puis, ils sont capables de valider que, je sais pas moi, 30 minutes après, quelqu'un d'autre vient sur ton clavier, ce n'est plus toi, OK? Fait que ça l'amène des choses vraiment de l'innovation intéressante qu'on n'avait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne pense même pas à ça. On se dit, hey, il est connecté. C'est bon, on va le laisser faire sa session. Sa session peut durer une heure, une journée, trois jours, dix jours. Tu sais, mais c'est la même. T'es sûr qu'on a la même personne derrière le clavier et qui fait ça, là? Donc c'est ça. Fait qu'écoute, c'est un gros changement. Fait qu'on peut imaginer que ça va avoir des impacts considérables, là. Donc, tu sais, dans ce modèle-là, on parle plus d'une. Aujourd'hui, tu sais, on a une protection de données par segmentation, beaucoup de réseaux puis de contenants, puis on va protéger l'ordinateur dans notre centre de données, d'une certaine façon, dans le cloud d'une autre façon. On essaye d'appliquer des politiques similaires, mais c'est pas vraiment évident, là, tu sais. Fait que Zero Trust, normalement, va faire en sorte que peu importe où ta donnée est située, que ce soit dans un centre de données ou que ce soit dans le cloud ou même sur un ordinateur, tu vas utiliser les mêmes mécanismes, la même façon pour protéger cette donnée-là. Peux-tu imaginer le changement qu'il va falloir faire pour arriver jusque-là? On parle de micro-segmentation. C'est ça qu'on parle.
Oui, notamment. Puis il ne faut pas arrêter là aussi parce que il y a plusieurs facettes. Là, parce qu'à une certaine époque, le Zero Trust, ce n'était que réseau. Ce n'est pas que réseau, c'est identité, c'est application. Ça se met dans plusieurs éléments. Donc, il faut les réfléchir différemment. C'est sûr que l'exemple le plus connu à grand déploiement, c'est Google qui l'a fait avec Beyond Corp, notamment, qui est une stratégie, qui n'est pas la stratégie, c'est sûr qu'il faut faire attention, parce qu'eux l'ont réfléchi comme ça depuis très longtemps, depuis qu'ils sont fait attaquer massivement il y a quand même plusieurs années. Là, ils ont tout changé et ça leur a pris des années avant de modifier d'une approche à l'autre. Puis ça demande justement une approche différentes et de justement se débarrasser de nos vieilles structures, nos vieilles pantoufles, puis de réussir à réfléchir différemment aussi. Puis c'est probablement l'aspect le plus difficile, c'est pas la technologie, mais c'est de réfléchir différemment pour nous amener dans cette zone-là qui est celle du zéro trust. Hein.
Exactement. Tu sais, maintenant, au niveau des bénéfices à haut niveau, tu sais, en théorie, là, si le zéro trust est bien implanté dans une entreprise, puis je t'annonce tout de suite que le chemin est long, là, pour dire. Puis plus qu'une entreprise va avoir un historique d'actifs informationnels et même de systèmes informatiques qui datent de longtemps, plus que ça va coûter cher, tu sais, de se transformer, là. Donc, les bénéfices, normalement, Zero Trust, c'est clair, là, il va réduire la surface d'attaque. OK? Donc, ça va énormément aider, tu sais, à avoir une surface d'attaque qui soit la plus petite possible. Va évidemment diminuer beaucoup de risques, là. Ça va amener un contrôle hyper granulaire d'accès aux données, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais, on dit « Hey, c'est toi, Nick, tu as tel profil, c'est beau, tu peux accéder à tout ce set de données-là. » Mais dans le futur, normalement, si c'est bien implanté, Zero Trust devrait dire, ben Nick, tu as accès à certains sous-compartiments de données, mais tu as accès aussi à certains types de transactions seulement sur ces données-là. Aujourd'hui, souvent, tu as accès à plusieurs, tous les types de transactions sur des grands sets de données. Donc, on voit derrière ça que ça va être un immense défi aussi. Gérer ça, il va y avoir une explosion probablement de comment tu vas vouloir gérer granulairement tes données. Tu sais, c'est le principe de least to know, mais appliqué pour de vrai, là. Tu sais, c'est ça que tant là, Zero Trust. Puis oui. Aussi, au point de vue de la gestion, si tout va bien, encore une fois, normalement, tu vas avoir des politiques d'accès qui vont être très homogènes, peu importe où est-ce que tes données vont être, puis tes applications vont être. Ça risque d'être un gros changement parce qu'aujourd'hui, moi, je le vois dans les grandes entreprises. Ils ont, mettons, des environnements cloud avec Google, Microsoft Azure, AWS, etc. Tabarouette, il n'y a pas deux façons similaires d'appliquer tes politiques de sécurité, d'accès, etc. C'est complètement débile. Fait que c'est dur à suivre là, dans ce temps-là. Maintenant, oui, ça apporte des bénéfices, mais il va y avoir des défis incroyables. Tu sais, Zero Trust là, dans les entreprises, à moins que tu aies une entreprise qui démarre demain matin, c'est un gigantesque projet de transformation de la sécurité d'une entreprise. Quand tu y penses, là, tantôt on va rentrer dans les piliers, là, je vais donner des exemples. Là. Autre défi que moi j'ai déjà vu là, depuis 2 ans, le ROI, extrêmement difficile à vendre aux exécutifs. Parce qu'il y a un gros investissement à faire avant de commencer à profiter des bénéfices. T'sais. Donc, ça va être très long, très coûteux, pour les entreprises qui ont des gros inventaires de données, de programmes, d'applications. Là. Aujourd'hui, les manufacturiers, je te dirais, ils vont un peu superficiellement. Ceux qui offrent des solutions disent Zero Trust, ils vont te vendre peut-être plus les trucs d'accès réseau, plus granulaire, etc. C'est bien, mais c'est pas là. T'sais, juste ce bout-là, ça sera pas assez.
Donc, ouais, c'est une étape parmi d'autres, puis c'est pas la seule. Puis c'est douloureux l'étape réseau là, par ailleurs. Là, dire, c'est ça, toute restructuration-là n'est pas simple. Puis je vais rappeler Google, ça leur a pris des années au budget que Google était capable de mettre là-dessus. Là, fait que là, c'est du sérieux. Donc, c'est pas simple.
Là. C'est une compagnie 100% d'informatique, Google. Là. Tu sais, ils vendent pas de l'assurance, puis l'informatique, c'est 5 ou 10% de leur chiffre d'affaires, de leur dépense. Tu sais, c'est 100%. Fait que Google, ça a été long. Puis ça a dû coûter cher, là, mais donc c'est ça. Fait que Zero Trust établit, tu sais, mettons, si je regarde un peu plus en profondeur, là, il y a des concepts de piliers là-dedans. OK? Puis là, encore là, je vais revenir au marketing. Là, les gens de marketing, des manufacturiers, sont emparés de ça, des piliers. Si tu regardes dans la documentation marketing des top 20 là, qui offrent des solutions dites Zero Trust, là, il y en a que tu vas voir 5 piliers, 6 piliers, 7 piliers. Ça va comme ça jusqu'à 11, 12 piliers. OK, avec là, toi, tu es un gestionnaire, tu regardes ça, voyons donc, pourquoi lui, il dit 5 puis lui, il dit 12? Ça a comme ni queue ni tête. Moi, je vais prendre l'exemple plus simple, là. Je vais essayer de te regrouper ça à 5. Ça, pour ma part, là, il y en a 5 ou 6, pas plus. T'sais. Donc, pilier numéro 1, donc, c'est un peu comme si tu avais compartimenté par domaine 0-3, soit est-ce que tu dois faire des interventions pour que ton modèle marche. Là. Pilier 1, on va parler des identités des utilisateurs. OK. Pilier 2, on va parler des dispositifs, les postes informatiques, les BYOD, etc. Pilier 3, c'est le pilier du réseau de l'infrastructure. Hein? Donc, mettons la partie transport. Pilier 4, applicatif. Et pilier 5, les données. Donc, il faut faire du Zero Trust à l'intérieur de l'ensemble de ces piliers-là. Si tu veux arriver un jour à dire, hey, mon entreprise adhère au principe de Zero Trust et on rencontre tous les contrôles qui ont été définis par NIST pour Zero Trust. Fait que je vais prendre par exemple le pilier 1. Donc, pilier 1, je disais que c'est identité utilisateur. Donc, il va falloir mettre en place des stratégies d'évaluation de posture et de confiance de chaque individu bien plus avancées que ce qu'on a aujourd'hui. OK? Donc, va falloir après ça mapper cette stratégie d'accès-là avec les tu sais, mettons, toi, Nicolas Loïc, ben, je veux que tu accèdes à des actifs. Donc, tu peux juste accéder à des données, c'est accéder à des actifs. Ça veut dire application, données, profils, etc. Donc, des services, des systèmes. Donc, on va parler là, de nouvelle génération de MFA, de biométrie, de airbag, là, tu sais.
Ouais, puis là, j'aime bien que tu apportes l'airbag parce que justement, on n'est plus vraiment dans l'univers du airbag classique, comme il s'est déployé pendant des années, puis des dizaines d'années, où on tombe plus à. Le vrai, maintenant, ils disent c'est soit du claim base ou du base, tout dépendant de comment on l'aborde, mais c'est justement, tu deviens porteur de ton claim, de ton identité, et celle-ci se promène avec toi, et au lieu d'être dans un grand Manitou qui décide tout en haut, ben maintenant, c'est des petits Manitou dans les applications qui vont s'appuyer sur ta carte d'identité. Fait qu'au niveau de l'identité numérique, ça vient de changer beaucoup la réflexion aussi. Là.
Exact, exact. Imagine, je vais te donner un exemple du pilier 1. Là. Imagine que toi, je te donne accès à un ERP comme utilisateur. OK? Fait que probablement que ta première session pour te connecter, tu vas utiliser le SSO de l'Active Directory, code d'accès, mot de passe, c'est beau, tu rentres là-dedans, bravo. À un moment donné, ça pourrait arriver que dans ton journey, là, dans ta session de ERP, tu as besoin d'accéder à certaines fonctionnalités. Fait que là, normalement, dans un concept ERP, si tu as besoin d'accéder à des données qui ont un niveau de classification supérieur à ce que tu utilises présentement, ça devrait te popper une nouvelle stratégie d'authentification, peut-être MFA. OK? Donc, tu vois-tu, là, il y a du travail à faire pour faire ça. Puis après ça, une fois que tu as joué là-dedans, imaginons que tu as besoin d'accéder à des données encore plus précises, plus sensible, je vais peut-être dire ben ça serait un code de biométrie. OK, tu vois-tu là tout le cheminement qu'on pourrait avoir, je te donne un exemple extrême là, mais si on veut aller vers du zéro trust, c'est vers là qu'il faut aller. Donc une authentification adaptative. Ça là, ça veut dire que il faut que tu prévois au niveau de ton pilier données, au niveau de ton pilier applicatif, des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Hein? Ça veut dire que quand, au niveau de l'applicatif, ils l'ont développé, est-ce qu'ils ont vraiment prévu des cas d'utilisation que des gens vont besoin de se promener en différents niveaux de sensibilité des données? Et si c'est le cas, faut qu'il y ait un déclencheur pour dire, là, j'ai besoin de solliciter une nouvelle stratégie d'authentification. Okay? Tu vois-tu vers où on s'en va avec Zero Trust? C'est bon, mais le travail qu'il va avoir à faire va être incroyable. OK? Le pilier 2 maintenant, les dispositifs, les postes, les téléphones intelligents, ce que tu voudras. Donc, il va falloir aussi, avant que ça se connecte à quelque part sur des services, des applications, des systèmes, évaluer le niveau de confiance du dispositif et la mapper avec la stratégie d'accès, là, tu sais, un peu comme on le fait l'utilisateur. Mais il va falloir faire ça en même temps. Là. Il va falloir et la combinaison de dispositif et la combinaison d'utilisateur. Il va falloir qu'on ait des lumières vertes. Green light, c'est avant de dire oui, c'est autorisé. Puis peut-être que dans certains cas, on va dire OK, tu es autorisé pour certains niveaux de sensibilité de données, mais pas d'autres. Tu sais, mettons, toi, ton ordinateur, tu es en Chine une journée. On va peut-être dire OK, on laisse rentrer Nicolas Lehic, mais dans le ERP, il va avoir accès juste au premier niveau de sensibilité de données. Les niveaux 2 et 3, il n'y aura pas accès. OK. Donc, tu vois, là, ça amène des concepts, là. Il va y avoir du travail là-dedans, là. Pas pour les gens en cybersécurité, mais il va falloir se retaper, je te dirais, des applications pour les moderniser. Zero Trust, hey, c'est pas fait, ça, là. T'sais, les ERP vont se développer. C'est pour ça que si tu rencontres un manufacturier qui essaie de te vendre du Zero Trust, ben, tu vas avoir un problème avec ça parce qu'il va te vendre juste un petit bout. Mais le gros du travail n'aura probablement pas été fait. Là, fait que, on le sait qu'aujourd'hui, là, les applications, il y en a très, très peu qui sont assez granulaires au niveau de la sécurité d'accès pour les rôles. La majorité qui est faite, c'est one size fit all. Il y a un profil, puis tout le monde voit les choses. Fait que, c'est pas zero trust là, ready là, pour le moment. Là, au niveau du pilier des données, il va y avoir du travail à faire là, pour avoir des SGBD, système de gestion des bases de données, beaucoup plus granulaire, beaucoup plus facile à utiliser. Il va falloir intégrer la notion de DLP aussi à l'intérieur du pilier données, puis même du pilier applicatif. Là. Parce que c'est les piliers applicatifs et données, on les oublie, mais la donnée, c'est l'actif ultime que Zero Trust veut protéger. Là. Fait qu'il va falloir que à cet endroit-là, il y en a beaucoup. Fait qu'aujourd'hui, c'est assez, je te dirais, de par mon expérience à moi, c'est assez open. Tu sais, ça a été, la sécurité qui a été mise là-dedans est un peu, elle a été faite par des gens en développement. Puis les gens en développement, ben, ils se sont fait aider un petit peu, mais tu sais, il n'y avait pas nécessairement une grosse réflexion de zéro trust, donc je fais confiance à rien. Non, c'est plus une confiance implicite là, qui a été déployée, à mon avis, dans la majorité des applications. Okay? Fait que, alors, au niveau aussi, au niveau zéro trust, là, je te dirais un pilier qui va être super important, ça va être le numéro un, là. Les individus utilisateurs, les identités, parce que c'est là que va gérer probablement la GIA. Là. Puis la GIA va avoir un rôle considérable là, dans les premiers pas, en tout cas, de zéro trust des manufactures.
Oui, ben c'est là où d'ailleurs les plus grands campagnes de marketing se font maintenant, là, ce qui n'était pas le cas avant. Là. Avant, c'était, on parlait juste du réseau, maintenant on va parler beaucoup plus d'identité. Encore là, tu parles de très belles technologies en temps réel. Moi, je les ai pas vues en déploiement. Puis les seules choses que j'ai vues en déploiement à l'heure actuelle, c'est ce que Azure fait. Et ça, Azure Entra, qui est quand même assez limité en termes de d'effets continus. Puis c'est très nouveau chez Microsoft de déployer ce type de technologie-là. Et c'est loin d'être parfait encore, contrairement à ce qu'on... Puis je connais pas là, mais du côté BeyondCorp de Google qui clament qu'ils sont beaucoup plus souples sur ces éléments-là, parce que beaucoup plus en maturité sur ce que c'est. Mais encore là, le réel, c'est qu'on sait bien qu'ils en parlent, mais les choses, c'est qu'il faut qu'on déploie dans nos compagnies, dans nos infrastructures, ce qui est beaucoup plus complexe. Et justement, de re-réfléchir l'identité, c'est quelque chose, mais re-réfléchir, c'est... Les dispositifs, on a eu la réflexion pendant le confinement, là, est-ce qu'on permet les dispositifs personnels, dans quelle mesure on le permet, qu'est-ce que ça permet d'aller plus loin, ce genre d'éléments-là, comment les technologies s'articulent, comment le cloud, tu le mentionnais, le cloud justement, c'est trois univers, c'est trois grands univers, là, si on parle des trois grands cloudeurs distincts, et là, si on rajoute les plus petits cloudeurs régionaux, comme OVH, par exemple, c'est encore une autre structure différente dans un autre univers qui est complètement différent, qui on n'est pas capable d'harmoniser dans l'ensemble du
ben spectre. Oui, ben oui. Comme tu le dis, tu disais ben, avec Microsoft Azure, moi j'ai lu beaucoup de documents de Microsoft Azure, fait que je pense que dans le monde de Microsoft Azure, ils font des belles choses, tu sais, qui tendent vers zéro trust, mais une entreprise, en tout cas, à moins qu'elle soit très petite, là, comme tu dis, ils n'ont pas juste du Microsoft Azure dans leur organisation. Souvent, ils ont du legacy qui va dater de plusieurs années dans leur propre centre de données ou hébergé ailleurs. Fait que là, zéro trust, on disait tout à l'heure, on veut que ça soit homogène, on veut que ce soit partout en même temps. Fait que là, tu vas te ramasser avec un Microsoft Azure qui va peut-être être plus avancé, plus mature pour ce que tu vas utiliser avec eux autres, mais tout le reste va être à la traîne. Tu sais, c'est pas ça qu'on veut avec zéro trust. Fait que comment harmoniser les zéro trust entre les différents manufacturiers? Parce que dans le fond, zéro trust, ça ne sera pas une solution, ça va être des solutions. Des solutions de sécurité, puis des solutions informatiques, de réseautique, etc. Donc, il y a énormément de travail à faire, puis la transformation va être grosse. Moi, ce que je vois beaucoup, Nicolas, c'est, je te dirais, souvent, là, il y a un premier pas qui est fait vers le zéro trust. Encore là, une fois, là, ça revient au principe que c'est juste un petit bout de zéro trust. C'est avec SASE, là, Secure Access Service Edge. Là. On en entend énormément parler depuis à peu près 4 ans. Ça, c'est une invention de Gartner, là, SASE. Là. Mais ça touche juste, je te dirais, c'est la stratégie d'accès plus à distance. Tu sais, là, les organisations ont été longtemps dans un mode, il y avait leurs propres infrastructures, legacy VPN, donc leurs propres serveurs VPN dans le centre de données, puis là, les postes se connectaient à VPN. Il y a encore énormément d'entreprises qui sont comme ça aujourd'hui. Là. OK? Puis, SASE se veut un modèle d'accès à distance qui est différent. Donc, premièrement, tu n'accèdes plus aux infrastructures de ton centre de données. Tu accèdes à un genre de nuage. OK, j'appellerais ça, mettons, un cloud VPN, mais ce n'est pas vraiment VPN parce qu'on n'utilise plus vraiment du VPN pour se connecter à ce nuage-là. On va utiliser, tu sais, des sessions TLS là, pour se connecter. Oui, les nuages supportent VPN, IPsec sans problème. Là. Mais donc, ça s'en va vers là. Puis une fois que toute ta communauté d'utilisateurs est connectée dans ce nuage-là. Ce nuage-là offre des services. Donc, offre des services, par exemple, dire, OK, je vais au niveau de ta cybersécurité te fournir du contrôle extrêmement granulaire pour les sessions de tes utilisateurs. OK? Je vais aussi faire du scrubbing. Je vais nettoyer la cochonnerie qui pourrait sortir des postes, une infection virale, n'importe quoi, pour pas que ça contamine ton centre de données, par exemple. Parce que entre le nuage, le SASE, et le centre de données, bien évidemment, généralement, il y a un tuyau là, qui permet d'acheminer le trafic légitime. Puis dans l'environnement cloud SASE, bien, tu as une infrastructure de routage aussi vers tous les autres services de cloud. Donc, ton poste a besoin d'aller sur Office 365. Ça ne viendra pas virer dans ton réseau corporatif. Ça va être routé directement par le nuage. Puis, mais tu as du contrôle dans le nuage. Tu as du contrôle, c'est toi qui vas gérer la sécurité du routage, la sécurité d'accès. Donc, ça apporte beaucoup de bénéfices. Fait que ça, je dirais, là, ce que je vois beaucoup dans les grandes entreprises, c'est un début d'amorçage. Là, ils ont mis en place beaucoup du SASE pour remplacer le vieil infrastructure VPN, puis ils commencent à profiter de ça. Maintenant, il y a des fournisseurs là-dedans qui sont plus avancés que d'autres. Là. Il y en a, par exemple, que ben, une fois que l'agent SASE est installé sur le poste, quand le poste revient au campus, il est suffisamment intelligent pour dire les politiques d'accès réseau qu'on a donné à l'extérieur, on les applique aussi à l'intérieur, OK, de l'organisation. Donc, tu es capable de transposer, là, c'est des fonctionnalités zéro trust, tu es capable de les faire fonctionner à l'intérieur de ton campus. Mais ça demande quand même des installations. T'sais, moi, j'ai étudié davantage deux grands manufacturiers là, qui offrent une solution SASE. Je suis vraiment les deux plus avancés, là, mais je suis plus à jour nécessairement là-dessus. Là. Le premier, c'est Zscaler. Okay? Donc, il installe justement un agent Zscaler sur le poste. Puis, donc, quand le poste est à distance, il se connecte dans le nuage. Son trafic affaires internes est routé vers l'organisation. Il y a une grosse stratégie dans le nuage pour protéger, pour sécuriser ce trafic-là. Quand le PC revient à l'intérieur du campus pour se brancher, ben, tu mets en place un genre de proxy zero trust en place, puis toutes les sessions à l'interne doivent être validées, approuvées par ce proxy-là avant d'être réalisées à l'intérieur vers les systèmes. OK. Donc, c'est quand même intéressant, là, tu sais, comme début de Zero Trust, mais pour les piliers plus identité, dispositif, puis réseau. OK. Mais ça ne règle pas du tout le problème qu'il y a beaucoup de travail Zero Trust à faire dans le pilier applicatif, dans le pilier données. Le deuxième manufacturier que j'ai vu, tu sais, comme Zscaler, ce qu'on devrait dire, c'est qu'ils ont vraiment adopté une attitude très. Ils ont développé une solution SASE vraiment 100% cloud pure. Okay. Le deuxième joueur que j'ai exploré, c'est Palo Alto. Donc, Palo Alto, tu sais qu'ils vendent du firewall Next Generation. Fait qu'eux autres, c'est un modèle un peu hybride. Donc, il y a un bout de cloud pour la partie SASE, donc accès SASE. Mais après ça, pour implémenter le contrôle, au lieu d'avoir un genre de proxy dans l'organisation pour le contrôle, ben leur intelligence travaille de concert avec les coupe-feu next generation de l'organisation pour permettre ou bloquer tu sais les transactions. Fait que ça l'amène dans les deux cas comme résultat quand même un niveau de granularité d'accès réseautique avec une évaluation de posture des postes puis un peu des individus qui est quand même tu sais c'est comme on commence à parler là, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est deux joueurs que j'ai eu l'occasion de regarder. Mais il y en a plein d'autres. Tu sais, écoute, Cisco est dans cette game-là. Cloudflare,
sont tous un peu là. Mais ça dépend aussi de quelle est ta définition de celle-ci. Là. Ça revient toujours à ça. Là. Ça, c'est un terme Gartner. Fait que c'est comment tu le définis comme Zero Trust. C'est un terme Forrester aussi. Et comment on le redéfinit puis comment ça évolue dans le temps. Parce que moi, tout ce qui est CASB, tombe un peu sous le spectre du SASE, ce qu'on voit, entre autres, avec Nectop, entre autres, toutes des interfaces qui sont, puis on le voit beaucoup, puis Microsoft aussi en a un aussi, Microsoft Defender for Cloud App, notamment, puis des éléments comme ça qui ont développé, qui sont, comme tu mentionnes, un gros proxy entre l'utilisateur et la consommation du service infonuagique généralement, mais qui peut aller aussi sur des services sur site web. Fait que là, on est encore dans le monde web et des éléments comme ça. Puis ce que j'ai vu, l'intégration du M365 au Workspace, elle est très élevée, c'est-à-dire qu'on est capable de scrubber très loin dans les sessions puis dire hey, toi, t'es en train de sortir un fichier, t'as pas le droit. Pouf, on t'enlève ou on t'empêche même la sortie de l'information. Ouais. Fait que c'est, puis ça peut même, un paragraphe va disparaître parce qu'on est capable de manipuler très, très loin dans le contenu parce qu'ils maîtrisent bien pour les applications standards, les applications non standards un peu moins. Mais bref, ça recoupe dans le même spectre de solutions, ouais, ouais. Si on va au nouveau SASE.
Fait que moi, je te dirais, SASE, ça fait beaucoup plus longtemps que, tu sais, ça a été lancé, que Zero Trust est devenu populaire, là. Mais tu sais, moi, je vois SASE comme un petit sous-ensemble à l'intérieur du gros ensemble Zero Trust. Fait que, écoute, ce sera ouais. À surveiller. Moi, Nicolas, je te dirais, c'était pas mal tout ce que je pouvais te jaser ce matin concernant Zero Trust. Fait que je sais pas si ça fait...
Ça fait le tour du show. Ça nous permet justement de l'aborder sur des concepts, justement, ce que je n'avais pas vraiment fait jusqu'à présent. Fait que c'est super intéressant. Merci énormément de ce partage-là. J'espère que ça va éclairer justement pour nous aider les gens à mieux architecturer les différentes solutions vers l'avenir.
Super. Ben merci, Nicolas.
Merci.